Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La loi sur la bioéthique est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale. La principale disposition, ce n'est pas la seule, c'est l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec d'autres femmes. Si la discussion reste largement policée au sein du Palais Bourbon, elle provoque des discours et des débats beaucoup plus vifs en dehors, en particulier sur la place du père. On pourrait s'en apercevoir ce week-end puisque les opposants les plus résolus ont prévu de manifester samedi à Paris contre la loi et notamment cette PMA pour toutes. La loi bioéthique est-elle trop audacieuse ou trop frileuse? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous dans notre studio. Pierre Lévy-Soussan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, chargé de cours à l'université Paris Diderot. Et par téléphone, Martine Vonner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche du Bas-Rhin, membre de la commission des affaires sociales, médecin psychiatre. Vous avez participé à la discussion de la loi bioéthique en déposant des amendements puisque vous êtes membre de la commission spéciale. L'exécutif a longtemps repoussé l'examen de la loi parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions et à l'Assemblée, le gouvernement a bien pris soin de le présenter de la manière la moins passionnelle possible, justement pour éviter des débordements comme ceux vus au moment de la loi sur le mariage pour tous. Est-ce que finalement cette loi n'est pas une évolution à la marge de la législation existante? En clair, est-ce que finalement elle ne change pas grand-chose, Martine Vonner?
Il me semble que cette loi est profondément généreuse. Déjà, c'est un message que je voulais réaffirmer ce soir. En ouvrant la PMA et l'accès à cette PMA pour toutes les femmes, on a là vraiment quelque chose qui correspond déjà, rappelons-le, à un engagement du président lors déjà de sa campagne présidentielle. Donc c'était très fortement attendu. Et de mon côté, en Alsace, j'avais fait plusieurs réunions publiques. Et c'est vraiment quelque chose que les citoyens mettait en avant et était très fortement demandé. Donc beaucoup de générosité. Après, peut-être qu'on aurait pu, et c'est vrai qu'il faut-il attendre 7 ans de plus pour aller vers des choses qu'on pourrait aujourd'hui aborder, notamment la GPA.
Pierre Lévy-Soussan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette loi, elle change vraiment beaucoup de choses ou finalement, est-ce qu'elle s'adapte un petit peu à une situation préexistante?
Non, elle change énormément de choses, en particulier par rapport à la désincarnation de la filiation, c'est-à-dire en soumettant la filiation uniquement à la volonté. Donc ça, c'est un vrai problème, une vraie question, il y a un vrai changement. Deuxièmement, une loi qui est, comme je viens de l'entendre, est généreuse, ça pose un problème par rapport à comment on considère un enfant. Est-ce qu'un enfant est un bien? Est-ce qu'un enfant est quelque chose que l'on considère comme un besoin, un objet, un droit? Ça pose problème. C'est-à-dire si l'enfant, dès sa naissance, est considéré comme quelque chose de l'ordre d'un droit ou d'un bien, c'est déjà extrêmement problématique pour lui.
Martine Vonner, des femmes qui ont recours à la PMA dans des pays voisins de la France où c'est parfaitement légal et depuis longtemps, depuis au moins une dizaine d'années, il y en a beaucoup en France en fait. Est-ce que la loi, comme je le demandais à Pierre Lévy-Soussan, s'adapte à quelque chose d'existant? Est-ce qu'on légalise tout ça, tout simplement?
En fait, elle s'adapte, oui. On légalise, pourquoi? Parce qu'on n'a pas affaire dans cette loi bioéthique à une technique nouvelle. On avait la PMA qui, je vous le reprécise, n'est pas une technique qui traite l'infertilité, puisqu'il n'y a que 4% des couples qui ont affaire à une PMA avec tiers donneur. Donc en fait, c'est pas du tout un traitement de l'infertilité, et c'est pas du tout non plus un droit à l'enfant. Mais par contre, quand il y a un véritable projet parental entre deux personnes, et demain ce projet parental qui pourra émaner pour une femme seule, moi il me semble que c'est permettre aux Françaises de pouvoir bénéficier de cette technique en France plutôt que d'aller devoir recourir à des centres à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Belgique ou même plus loin. Je siégeais pas plus tard que cet après-midi au Conseil de l'Europe et j'ai pu discuter avec des collègues parlementaires, en effet, de l'Union européenne, et bien évidemment, ils m'ont tout de suite dit, mais enfin, la France rejoint l'ensemble des pays qui accompagnent ces femmes dans de véritables projets. J'avais été choquée par la position de l'Académie de médecine, qui, je cite, considère cette ouverture à toutes les femmes comme une rupture anthropologique majeure. Moi, j'aimerais qu'on vous réaffirme, en tous les cas ce soir, qu'aucune étude scientifique ne permet de dire que les enfants conçus par AMP souffriraient d'un quelconque trouble psychique qui leur serait spécifique. Donc arrêtons de stigmatiser. Et bon, je reviendrai sur cette image du père et sur cette résolution.
Justement,
de la
on va en parler. On va en parler si
voilà,
vous voulez bien.
Très bien.
On va en parler avec Pierre Lévy-Soussan. Le problème numéro un avancé par les opposants à la loi, Pierre Lévy-Soussan, c'est l'absence du père. Est-ce qu'on sait, pour rebondir sur ce que vient de dire Martine Vonner, est-ce qu'on sait avec certitude, est-ce qu'il est établi scientifiquement que l'absence d'un père est préjudiciable pour l'enfant?
Alors avant de répondre à ça, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire, oui, c'est une rupture anthropologique. C'est-à-dire le fait de se servir de la science, non pas pour lutter contre une infertilité pour un problème médical, mais de donner la possibilité d'être parent à des personnes qui auraient pu l'être autrement. Oui, c'est une vraie rupture par rapport à la mission de la médecine. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, rupture anthropologique, bien sûr, et l'avis de l'Académie de médecine qui n'est pas le seul à avoir mis des freins, c'est-à-dire même le conseil, même le CCNE a mis aussi des clignotants en disant que nous savons que ce sont des risques pour les enfants, c'est-à-dire oui, il y a des risques pour les enfants, que ce soit dans les situations de femmes seules, et là vraiment toutes les études montrent à quel point justement la situation de femmes seules est une situation plus complexe et pour la femme et pour l'enfant, donc ça c'est que ce soit PMA, que ce soit adoption, que ce soit une histoire de vie, c'est plus compliqué pour les deux. Donc, se servir de la science pour mettre d'une façon volontaire un enfant dans une situation plus à risque, oui, ça pose problème. Ensuite, par rapport aux autres études, donc ces études ont montré les difficultés. Donc là encore, c'est une...
Quand vous parlez de difficultés, ça veut dire quoi? Ça veut dire des problèmes de développement intellectuel des enfants?
Enfin, là encore, il n'y a pas de... Et là, ma collègue médecin a raison, il n'y a pas de problème spécifique. Ce sont des problèmes multiples qui vont depuis des difficultés scolaires jusqu'à des difficultés d'intégration, jusqu'à des difficultés en général de mal-être. Donc ça, les études sont là aussi pour le montrer, mais il a fallu pour cela près de 20 ans pour montrer que toutes les études précédentes étaient des études purement militantes qui disaient non seulement l'enfant va bien, mais l'enfant va mieux. Il a fallu des années pour dire, ben non, ce sont des études militantes et idéologiques. Et c'est un vrai problème.
Alors, Martine Vonner, votre réaction de médecin sur l'aspect scientifique.
Je me porte complètement faux parce qu'en effet, c'est vrai que mon confrère a été très largement cité par les opposants à la PMA pour toutes dans l'hémicycle, hein, puisque les LR n'avaient que le nom de Lévy-Soussan à la bouche. Mais c'est, j'allais dire,
il a droit à son avis.
C'est aussi, mais complètement. Et c'est ce qui fait la richesse du débat démocratique. Mais alors du coup, moi, j'ai vraiment recherché, j'allais dire, des preuves scientifiques et je n'ai absolument rien trouvé, si ce n'est une étude française qui avait été réalisée en 2006 à partir d'une cohorte d'enfants nés de PMA et ces enfants vont tout aussi bien que tout autre enfant. Donc il n'y a aucune stigmatisation particulière à avoir et je pense bien au contraire qu'un enfant qui est désiré, qui est né du fruit de l'amour de deux personnes, que ce soit deux personnes, un homme, une femme, deux femmes ou qu'aussi cet enfant demain pourra naître dans le cadre d'un désir d'enfant d'une femme. Et j'aimerais vous rappeler là que j'ai déposé des amendements pour sécuriser d'une certaine façon, on va dire, le regard que nous pourrions porter sur un déséquilibre potentiel psychique chez une femme qui souhaiterait avoir un enfant seul. Je l'ai sécurisé comment? Par différents amendements qui ont été acceptés.
Ça veut dire qu'il devrait y avoir des entretiens avant d'autoriser femme à faire cette demande, tout simplement?
Alors, aujourd'hui, et depuis que la PMA, depuis que la technique existe, en effet, les couples, avant de pouvoir accéder à cette technique, rencontrent une équipe clinico-médico-biologique. Dans cette équipe, j'ai consolidé la présence puisque les membres de cette équipe seront déterminés en Conseil d'État. Donc il y aura forcément dans toutes les équipes, puisqu'il y a différents sites en France qui ont cette autorisation à pratiquer la PMA, il y aura forcément des personnes ayant compétences psychiatriques, donc psychiatres ou et psychologues, voire infirmiers ayant compétence en psychiatrie, pour faire bénéficier aux parents ou à la femme seule de différents entretiens. Oui. L'idée n'étant en effet de ne pas permettre la naissance d'un enfant réparateur, si je pourrais le nommer comme ça, ou d'un enfant qui viendrait là pour compenser quelque chose, mais bien au contraire, accompagner ses parents dans le projet parental.
Martine Vonner, on va demander à Pierre Lévy-Soussan si ces garde-fous que vous avez mis en place et que vous évoquez lui paraissent suffisants pour éviter des dérives ou pas d'ailleurs. Voilà.
En tout cas, ces garde-fous que chaque pays dise avoir mis en place par rapport à l'enfant n'ont jamais suffi à supprimer les situations à risque pour l'enfant. La dernière situation parmi les situations que j'ai eu à expertiser dans le champ de la protection de l'enfance, c'était un enfant qui avait été maltraité dès ses premiers jours d'arrivée. Et là, déjà, ça suppose un certain aveuglement de ces centres. Ces centres, si en plus on mélange ce qu'il en est de la psychiatrie, de l'infirmier psychiatrique, du psychologue pour porter des contre-indications psychiatriques, je vois mal comment ce pourra être le cas. Et deuxièmement, ça ne supprime en rien les risques propres à l'absence de père, qui est compliqué pour un enfant. C'est-à-dire, on ne peut pas être à la fois une société qui prône la parité dans le champ sociétal et dans le champ social et politique, et priver l'enfant de cette parité. C'est-à-dire, on sait qu'on lui supprime des repères. Alors bien sûr, il peut compenser, mais on sait que ça sera plus compliqué pour lui. Et par rapport à cet argument que j'entends souvent, c'est-à-dire oui, mais il peut trouver un père ailleurs, etc. Non, il n'y a pas de père ailleurs. Il n'y a pas de plan B par rapport à une absence de père. C'est quelque chose dont la société serait responsable avec une utilisation scientifique de la science.
Vous voulez dire que des référents masculins, ça ne remplace pas un père. C'est ça que vous dites.
Exactement. Exactement. Aucun référent masculin qui soit instituteur, qui soit on m'a dit oui, mais il y a le boulanger, le charcutier, l'oncle, le grand-père.
Il peut y avoir des amis proches aussi.
Rien ne remplace un père. Il n'y a pas de plan B lorsque la femme craquera. Vous savez, il y a beaucoup...
La femme ne craque pas forcément.
Oui, mais vous travaillez dans l'international. Près de 50% des pays ont supprimé les femmes célibataires pour l'adoption. Et là encore, ils ont une pensée préventive. Donc ça ne veut pas dire qu'on est dans un discours prédictif, mais préventif.
Martine Vonner, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ?
Ah ben écoutez, je suis
un petit peu surprise, je suppose.
Je suis extrêmement surprise. Qu'il y ait bien évidemment un référent, voire deux référents, et quand on est dans un couple de femmes, il y a deux référents adultes, deux référents qui s'aiment. Il me semble qu'en plus, une femme seule peut elle-même organiser tout à fait de façon équilibrée l'altérité qu'elle va proposer dans l'accompagnement de l'enfant, mais à aucun moment il n'y aurait, à coup sûr, en absence de père, des enfants qui se développeraient de façon pathologique. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, et on sait combien de familles monoparentales existent du fait des hasards de la vie, des séparations, des divorces, d'un décès de l'un ou de l'autre.
Il y a plus souvent des pères absents que des mères absentes.
L'enfant n'est pas pour autant tributaire et présentant des troubles majeurs du comportement.
Toutes les études le montrent, toutes les situations de monoparentalité le montrent. Et ça, depuis 50 ans, on le sait. Il n'y a pas un seul pédopsychiatre qui pourrait vous soutenir le contraire.
D'interprétation.
On sait que les situations monoparentales sont des études à risque.
Pierre Lévy-Soussan, excusez-moi. Depuis la loi sur le mariage pour tous, l'adoption par les conjoints de même sexe est possible. J'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, qu'est-ce que cette loi change au fond finalement ? C'est des choses qui existent déjà.
Ah ben moi j'ai même envie de vous dire que on profite de ce temps, de ce moment de la révision de la loi bioéthique pour quelque part régler ou quelque chose qui aurait pu être traité au niveau du droit de la famille, du droit de la filiation au moment du mariage pour tous. Oui. On ne change pas la technique. On étend la PMA à toutes les femmes et vraiment je tiens à me redire à quel point je m'en félicite. Je pense qu'enfin on est digne de d'autres pays européens et vraiment il faut s'en féliciter de permettre tous ces droits, mais à aucun moment on est vraiment dans quelque chose qui aurait pu être fait d'une autre manière mais qui symboliquement aussi était très forte. puisque c'était une promesse du président Macron.
Pierre Lévy-Soussan, j'ai bien compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord sur l'interprétation des différentes études scientifiques, qui, si on vous écoute, chacun sont peut-être orientés au départ. Donc on va peut-être arrêter là-dessus. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu comme la loi sur le mariage pour tous, où il s'agit de légaliser quelque chose qui existe de fait à très large échelle dans la société.
La grande différence par rapport à la loi 2013, c'est que cela concernait des enfants qui étaient déjà nés d'un père et d'une mère de naissance et qui ensuite ont proposé à l'adoption.
Mais c'est déjà le cas. Donc, là, les gens vont faire des FIV à l'étranger,
oui,
dans
mais
les pays tout proches.
Mais la grande différence, c'est qu'on crée dès le départ une situation de scientifique par rapport à la PMA. Où là, dès le départ, il va devoir transformer en mère et mère, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue psychologique pour l'enfant, dès la naissance. C'est-à-dire, le fait de faire appel à une technique de PMA, c'est déjà pour un couple de base, c'est compliqué et ça pose des problèmes. Donc déjà, et on le voit d'ailleurs avec tous les enfants en souffrance qui deviennent adultes, qui demandent le droit des origines, etc., ça prouve par A plus B que c'est une situation complexe qui, dans les familles où cela n'a pas été possible, on voit cette aimantation par le biologique. Donc on voit déjà que ce sont des techniques complexes et à risque. Pourquoi charger la barque par rapport aux autres ?
Alors sur la filiation, Martine Vonner, la loi introduit à connaître ses origines, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ?
Alors, moi, j'ai porté, j'ai accompagné depuis le début, on va dire, le combat des associations, que ce soit PM Anonyme ou Origine. Pourquoi ? Parce que, non pas la recherche de l'enfant, de ses origines biologiques pendant son développement, mais ces adultes nés de dons expliquent parfaitement bien que eux-mêmes, au moment où ils transmettent, j'allais dire, leur patrimoine génétique, c'est-à-dire au moment même où eux-mêmes deviennent parents, ils ont ce besoin de connaître quelque part leur histoire, sans jamais renier les parents qui les ont élevés, leurs parents. On ne touche en rien au droit de la filiation. Ça, c'est quelque chose qui a été très mal compris depuis le début. La filiation, on n'y touche pas. On va pas, c'est-à-dire que la personne, l'homme qui a donné son sperme 20 ans avant, ne va pas d'un seul coup se retrouver avec 10 enfants devant la porte. Ce n'est pas ça du tout. Mais la question, en effet, de pouvoir savoir et peut-être avoir accès, en tout cas, à la demande des enfants quand ils seront devenus adultes, c'est un peu technique, ils pourront avoir accès aux données identifiantes ou non identifiantes, ou pas, mais seulement à leur demande. Et ça sera là aussi extrêmement sécurisé par le biais d'une commission idoine. Oui. Et voilà, mais il n'y aura aucune obligation, bien évidemment.
Pierre Lévy-Soussan, le droit à connaître ses origines, bonne ou mauvaise chose, il nous reste peu de temps, une minute en fait.
Écoutez, c'est typiquement une mauvaise solution à un vrai problème, parce qu'à partir du moment où on va commencer à valoriser ce qu'il en est du lien du sang, du lien génétique, c'est quelque chose, c'est comme un fantôme qui sera présent tout le temps dans la famille. Alors il y a des familles qui seront capables de l'élaborer et de faire comme si ça venait d'eux, et il y a des familles qui en seront incapables. Et tous les échecs, si je puis dire, c'est-à-dire toutes les personnes, que ce soit via l'adoption, que ce soit via la PMA, ou dans les familles qui n'ont pas réussi à justement à transformer leur enfant en fils ou fille d'une façon solide, il y a eu cette attirance vers ailleurs. Et on sent bien avec le vocabulaire qui est utilisé, le père biologique, etc. Donc en fait, ça désincarne, ça attire l'enfant vers un ailleurs. Et il y a des familles qui sont dans l'incapacité de mettre le père en position de père et la mère en position de mère. Il y a comme ça des parents qui ont appelé leur enfant de nom un peu norvégien parce que il a été congelé. Donc c'est vous dire l'impact de la technique sur le psychisme.
Alors je sais pas si ça sera peut-être un autre débat, celui sur les prénoms qui avait rebondi ces dernières années. Merci Pierre Lévy-Soussan d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Martine Vonner également. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, au service documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.